Le journal de George Fox 1667-1685 Angleterre, Europe et retour page 1. Après avoir été quelque temps à Londres, j'écrivis la lettre suivante à mon épouse, chère âme, à qui va mon amour, ainsi qu'aux enfants et à tous les autres amis dans la vérité, la puissance et la semence du Seigneur, qui est au-dessus de tout, gloire au Seigneur, et béni soit son nom à jamais, au-delà de tous les maux. Lui qui m'a porté à travers et au-dessus de nombreuses épreuves et de nombreux dangers, dans sa puissance éternelle, je suis allé deux fois à la réunion de Gracechurch Street, et bien que des esprits contraires y fussent, tout s'est pourtant passé dans le calme, la rosée du ciel est tombée sur le peuple, et la gloire du Seigneur a resplendi sur tous. Chaque jour, j'ai du plaisir à assister à des réunions au sujet des affaires et des souffrances, qui sont grandes au loin, et maintenant beaucoup d'amis sont préoccupés par ces nombreuses souffrances, ainsi, en hâte, avec mon amour pour vous tous. George Fox, Londres, le 24 du 9 mois, 1667. Vers ce temps-là, je reçus des lettres de la Nouvelle-Angleterre, qui rendaient compte de la conduite cruelle et non chrétienne des magistrats et des dirigeants contre les amis là-bas, les fouettant et les maltraitant très honteusement, car ils fouettèrent beaucoup de femmes parmi les amis. Une femme fut dénudée jusqu'à la taille, attachée à une charrette et traînée le long de la rue d'Astérisque. Ils fouettèrent même certains maîtres de navires qui n'étaient pas des amis, simplement parce qu'ils avaient transporté des amis jusque-là. Au même moment, tandis qu'ils persécutaient les amis de cette manière barbare, les Indiens tuèrent 60 de leurs hommes, capturèrent l'un de leurs capitaines, lui arrachèrent le cuir chevelu alors qu'il était encore vivant, et emportèrent le scalp en triomphe, de sorte que les gens raisonnables disaient « Les jugements de Dieu sont tombés sur eux pour avoir persécuté les Quakers », mais les prêtres aveugles et ténébreux disaient « C'était parce qu'ils ne les persécutaient pas assez ». J'eus ici une grande épreuve, de prière en recherchant un soulagement pour ces pauvres amis souffrant là-bas, afin qu'ils ne demeurent pas sous la verge des méchants. Astérisque, c'était Elizabeth Houghton, cet incident s'est produit à plusieurs reprises, comme indiqué en détail dans ses mémoires sur ce site. Pour ce service et d'autres en faveur de la vérité, je restai à Londres 4 à 5 semaines, visitant des réunions et aidant et encourageant les amis à œuvrer pour la délivrance de leurs frères souffrant en d'autres lieux. Ensuite, j'allai à Kingston et visitai les amis là-bas et dans les environs. En séjournant un peu parmi les amis de ce lieu, je relus un livre qui était alors prêt à partir à l'impression. Je me rendis dans le Buckinghamshire en visitant les amis. Nous eûmes plusieurs réunions parmi eux à Amersham, Hungerhill, Jordan, Hedgeley, Wickham et Turville Heath. À certaines réunions se trouvaient ceux qui étaient sortis de l'unité des amis dans la vérité, pour tomber dans la crêle, l'opposition et la division. Ils étaient très indisciplinés et difficiles, particulièrement à la réunion des hommes chez Thomas Elwood à Hungerhill. Le meneur de ceux-ci venait de Wickham, s'efforçant de provoquer du trouble et d'empêcher les amis d'avancer dans les affaires de la réunion. Quand je vis leur dessein, je les avertis d'être sobres et tranquilles et de ne pas troubler la réunion en interrompant son service, mais plutôt, s'ils étaient mécontents de la conduite des amis et avaient quelque chose à objecter, qu'une réunion fût fixée un autre jour afin d'examiner leurs objections. Ainsi les amis leur proposèrent une réunion un autre jour et, après une longue discussion, il fut convenu qu'elle aurait lieu chez Thomas Elwood la semaine suivante. En conséquence, les amis les y rencontrèrent, et la réunion se tint dans la grange, tant il vint de monde que la maison ne pouvait les contenir. Après que nous eûmes été assis, en silence, attendant la présence et la puissance du Seigneur quelque temps, ils commencèrent leur débat. La plupart de leurs flèches étaient dirigées contre moi, mais le Seigneur était avec moi et me donna la force, dans sa puissance, de renvoyer sur eux-mêmes leurs traits d'envie et de mensonge. Leurs objections furent réfutées, les choses furent éclaircies au peuple, et ce fut une bonne occasion, utile à la vérité. Beaucoup, qui auparavant avaient été faibles, furent maintenant fortifiés et affermis. Certains qui doutaient et hésitaient furent satisfaits et établis, et les amis fidèles furent rafraîchis et consolés dans l'éclosion de la vie parmi nous, car la puissance s'éleva et la vie jaillit, et tandis qu'elle s'élevait, de nombreux témoignages vivants naquirent contre cet esprit méchant de division et de déchirement, auquel ceux de l'opposition s'étaient joints. Cette nuit-là, je logeais avec d'autres amis chez Thomas Elwood, et la même semaine, j'eus encore une réunion avec l'opposition à Wickham, où ils montrèrent de nouveau leur envie et furent ainsi dévoilés au cœur droit. Après avoir visité les amis dans cette partie haute du Buckinghamshire, je passai à Henley dans l'Oxfordshire et allai par Corsham à Reading, où j'assistai à la réunion le premier jour, et le soir, j'eus une grande réunion avec les amis. Il y eut une autre réunion, le jour suivant au sujet de l'établissement d'une réunion de femmes. Certains de ceux qui avaient laissé entrer l'esprit de division se mirent à discuter et furent désordonnés pendant un moment, jusqu'à ce que le poids de la vérité les abaisse. Après cela, je poursuivis en visitant les amis et en tenant des réunions en plusieurs lieux à travers le Berkshire et le Wiltshire, jusqu'à ce que j'arrive à Bristol, le 24 jour du 11 mois, juste avant la foire. Je restai à Bristol pendant la foire et quelque temps après. Nous eûmes de nombreuses réunions douces et précieuses. Beaucoup d'amis étaient à Bristol, venus de plusieurs parties de la nation, certains pour le commerce et d'autres au service de la vérité. Les amis qui vivaient fidèlement dans la vérité montrèrent un grand amour et une grande unité. Bien que certains fussent sortis de la sainte unité et se fussent jetés dans la crêle, la division et l'inimitié, cela était grossier et injurieux et se comportait envers moi d'une manière très peu chrétienne. Mais la puissance du Seigneur était au-dessus de tout. Sa puissance me conserva dans la patience céleste, qui peut supporter les injures pour l'amour de son nom. Ainsi je ressentis en elle la domination sur les esprits rudes, grossiers et indisciplinés, et je les laissai au Seigneur, qui connaissait mon innocence et plaiderait ma cause. Plus il s'efforçait de me couvrir de reproches et de me vilipender, plus l'amour des amis sincères et au cœur droit abondait à mon égard. Et certains qui avaient été trompés par les adversaires, voyant leur envie et leur grossièreté, rompirent avec leur division. Ceux qui cessèrent la division ont sujet de bénir le Seigneur pour leur délivrance. Quand je quittai Bristol, j'allai avec Richard Sneed dans une de ses maisons à la campagne, puis de là chez Ezekiah Coal à Winterburn dans le Gloucestershire. Plusieurs amis qui subissaient de très grandes souffrances pour la vérité y vinrent. J'avais invité ces amis à m'y rencontrer. Stephen Smith, Richard Sneed et moi dressâmes un bref de leurs souffrances, exposant les procédures illégales engagées contre eux. Ce bref fut remis au juge aux assises de Gloucester, et ils promirent de mettre un terme à ces procédures illégales. Le lendemain, nous passâmes à Sudbury et eûmes une grande réunion dans la maison de réunion, qui, en ce temps-là, fut d'un très bon service. Le jour suivant, nous allâmes chez Nathaniel Cripps à Tedbury et de là à Nailsworth. Là, le premier jour, nous eûmes une grande et magnifique réunion. De là, nous allâmes à la réunion trimestrielle de Finchcombe, où se trouvaient plusieurs de l'esprit opposé, qui, pensait-on, avaient l'intention de troubler la réunion parmi les amis. Mais la puissance du Seigneur fut au-dessus de tout et les tint en bas, et nous eûmes un bon service pour le Seigneur lors de cette réunion. Nous revînmes de Finchcombe à Nailsworth et y eûmes une autre réunion très précieuse, à laquelle les amis vinrent des diverses réunions du voisinage, la rendant aussi très grande. Nous partîmes de Nailsworth le premier jour du premier mois, 1667, et nous voyageâmes, visitant les amis et tenant de nombreuses réunions à Currency, Crown Hall Inns, Ulna, Stokeshire, Treasury et ailleurs. Nous allâmes à Worcester, où j'avais autrefois souffert plus d'un an d'emprisonnement pour l'amour de la vérité, et les amis se réjouirent grandement de me revoir là. J'y restai plusieurs jours et tins de nombreuses réunions très précieuses dans la ville, avec beaucoup de services parmi les amis. Après quoi j'eus des réunions à Perchore et à Evesham, puis j'allai à Draggle et à Wallocks pour visiter Lady Conway, qui, avais-je compris, espérait beaucoup me voir. Je la trouvai très tendre et aimante, et elle voulait que je reste plus longtemps que je n'en avais la liberté. À environ 2 miles de là, j'eus deux réunions dans la maison d'un ami nommé John Stanley. William Dewsbury vint ici et resta avec moi environ une demi-journée. Je visitai les amis dans leur réunion à Stratford, Lamcote et Armscott, d'où j'avais été envoyé prisonnier à Worcester en l'an 1673, puis je passai dans l'Oxfordshire, visitant les amis et tenant des réunions à Seabar, North Newton, Banbury, Adderbury. Puis visitant les amis à travers le Buckinghamshire, à Longcrandon, Ilmay, Mendel, Weston, Colesbury, Chesham, j'arrivai chez Isaac Pennington, où je restai quelques jours. Je me tournai ensuite vers l'Hertfordshire, visitant et tenant des réunions avec les amis à Chorlwood, Watford, Hempstead et Market Street. Le matin, je partis de Market Street pour Luton, dans le Bedfordshire, afin de voir John Crook, avec qui je passai une bonne partie de la journée, puis vers le soir, j'allai à Holborn's, où je passai la nuit dans une auberge. Après avoir visité les amis et tenu des réunions à Southmeam, Barney et Andon, j'arrivai à Londres le 8 du troisième mois. Comme c'était le quatrième jour, j'allai à la réunion de Gracechurch Street, qui fut paisible et bonne. Beaucoup d'amis, ne sachant pas que j'étais revenu en ville, furent très joyeux de me voir là, et le Seigneur était présent avec nous, nous rafraîchissant de sa vertu vivante, béni soit son saint nom. Le Parlement siégeait quand j'arrivai en ville, et les amis, ayant exposé devant lui leurs souffrances, attendaient de lui un soulagement contre les lois faites contre les récusants catholiques, ceux qui refusent de reconnaître la suprématie du roi, dont ils savaient que nous n'étions pas. Bien que certains magistrats malveillants en profitassent pour nous poursuivre en plusieurs endroits du pays sur la base de ces statuts. À mon arrivée, je me joignis aux amis qui s'occupaient de ce service. Il y avait quelque probabilité d'obtenir quelque chose pour le repos et le soulagement des amis dans ce cas, parce que beaucoup de membres du Parlement croyaient que nous étions calomniés par nos adversaires, et ils se montraient très tendres et aimants envers nous. Mais un matin, quand j'allais avec George Whitehead à la Chambre du Parlement afin de les solliciter au nom des amis, les lois avaient été publiées soudainement, bien qu'elles n'aient duré que peu de temps. Environ 2 semaines après mon arrivée à Londres, la réunion annuelle commença, des amis y vinrent de la plupart des régions du pays, et nous eûmes une réunion céleste et glorieuse. Oh la gloire, la majesté, l'amour, la vie, la sagesse et l'unité qui étaient parmi nous, la puissance régnait sur tout, et de nombreux témoignages furent rendus dans la réunion contre cet esprit impie qui cherchait à faire des déchirures et des divisions parmi le peuple du Seigneur, mais pas une bouche ne s'ouvrit parmi nous pour le défendre ou prendre sa cause. Nous eûmes aussi, pour la plupart, de bons et agréables rapports des amis d'autres pays. J'en trouve un bref compte dans une lettre que j'écrivis peu après à mon épouse, dont une copie suit, « Chère âme, à qui va mon amour dans la semence éternelle de vie qui règne sur tout. » De grandes réunions ont eu lieu ici, et la puissance du Seigneur s'est mise en mouvement à travers tout, comme jamais auparavant. Le Seigneur, dans sa puissance, a merveilleusement uni les amis, et sa glorieuse présence est apparue parmi eux. Et maintenant les réunions sont terminées, béni soit le Seigneur dans le calme et la paix. De Hollande, j'entends que les choses y vont bien. Certains amis s'y sont rendus pour être à la réunion annuelle à Amsterdam. À Hampden, les amis qui avaient été bannis sont revenus dans la ville. À Dantzig, des amis sont en prison et les magistrats les ont menacés d'un emprisonnement plus dur. Mais le lendemain, les luthériens se soulevèrent et défigurèrent et renversèrent le monastère catholique, de sorte qu'ils ont assez d'ouvrage pour maintenir l'ordre entre eux. Le roi de Pologne a reçu et lu ma lettre, et depuis les amis l'ont imprimée en haut allemand. J'entends dire, par des lettres de leur réunion semestrielle, que les amis d'Irlande sont tous dans l'amour. À la Barbade, les amis sont tranquilles et leurs réunions sont établies dans la paix. Antigua et Nevis rapportent aussi que la vérité prospère et que les amis tiennent leurs réunions de façon ordonnée et bonne. De même, en Nouvelle-Angleterre et en d'autres lieux, les choses concernant la vérité et les amis vont bien. Dans ces endroits, les réunions des hommes et des femmes sont établies, béni soit le Seigneur. Ainsi demeurez dans la puissance et la semence de Dieu, qui est au-dessus de tout et en qui vous avez tous vie et salut, car le Seigneur règne sur tout, dans sa gloire et dans son royaume, gloire à son nom à jamais. Amen. Ainsi en hâte, avec mon amour pour vous tous et pour tous les amis. George Fox, Londres, le 26 du 3 mois, 1678. La lettre au roi de Pologne, mentionnée ci-dessus, est la suivante. À Johann Zi, roi de Pologne, ô roi, nous désirons votre prospérité, tant en cette vie que dans celle à venir. Et nous désirons que nous puissions avoir notre liberté chrétienne pour servir et adorer Dieu sous votre domination, car notre principe ne nous conduit à rien faire qui soit préjudiciable au roi ni à son peuple. Nous sommes un peuple qui exerce une bonne conscience envers Dieu, par son Saint-Esprit, et en cela le sert, l'adore et l'honore, et envers les hommes dans les choses qui sont égales et justes, leur faisant ce que nous voudrions qu'ils nous fassent, regardant à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi, foi qui purifie nos cœurs et nous donne accès à Dieu, sans quoi nous ne pouvons lui plaire, par laquelle tous les justes vivent, comme l'Écriture le déclare. Ce que nous désirons de vous, ô roi, c'est que nous ayons la liberté de nos consciences pour servir et adorer Dieu, et pour le prier dans nos réunions assemblées au nom de Jésus, comme il le commande, avec la promesse qu'il sera au milieu de ceux qui se réunissent. Le roi, nous l'espérons, ne peut que dire que ce devoir et ce service sont dus à Dieu et au Christ, et nous rendons à César ce qui lui est dû, et nous payons notre tribut et nos taxes de manière égale à notre prochain, selon notre juste part. Nous n'avons jamais lu, dans toutes les Écritures du Nouveau Testament, que le Christ ou ses disciples aient jamais banni ou emprisonné quelqu'un qui ne fût pas de leur foi ou de leur religion, ou qui n'écouta pas leurs supplications, ni qu'ils aient donné un tel commandement, mais au contraire, qu'on laisse croître ensemble l'ivraie et le blé jusqu'à la moisson, laquelle moisson est la fin du monde. Alors le Christ enverra ses anges pour séparer le blé de l'ivraie. Il reprit ceux qui voulaient faire descendre du feu du ciel pour consumer ceux qui ne recevaient pas le Christ, et leur dit qu'ils ne savaient de quel esprit ils étaient, il dit qu'ils n'étaient pas venus pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Nous désirons que le roi considère combien il y a eu de persécutions dans la chrétienté, depuis les jours des apôtres, au sujet de la religion. Le Christ a dit, « Ceux qui ne l'auront pas visité en prison iront au châtiment éternel, alors que deviendront ceux qui l'emprisonnent dans ses membres, là où il se révèle. » Nul ne peut dire que le monde est fini. Comment donc la chrétienté répondra-t-elle au Dieu redoutable et terrible au jour de son jugement, elle qui s'est persécutée mutuellement au sujet de la religion avant la fin du monde, sous prétexte d'arracher l'ivraie, ce qui n'est pas leur œuvre, mais celle des anges à la fin du monde. Le Christ commande aux hommes de s'aimer les uns les autres et d'aimer leurs ennemis, et c'est à cela qu'on doit reconnaître qu'ils sont ses disciples. Oh, si toute la chrétienté avait vécu dans la paix et l'unité, afin que, par sa modération, elle eût pu juger aussi bien les Turcs que les Juifs, et qu'on laissât à tous leur liberté, à ceux qui reconnaissent Dieu et Christ Jésus et marchent comme il convient au glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nos désirs sont que le Seigneur Dieu du ciel adoucisse le cœur du roi envers toutes les consciences tendres qui craignent le Seigneur et ont peur de lui désobéir. Nous prions le roi de lire quelques-unes des nobles expressions de plusieurs rois et d'autres concernant la liberté de conscience et surtout les paroles de Stéphanus, roi de Pologne, à savoir « Il ne m'appartient pas de réformer les consciences, j'ai toujours volontiers remis à Dieu ce qui lui appartient, et ainsi ferai-je maintenant et aussi à l'avenir. Je laisserai croître l'ivraie jusqu'au temps de la moisson, car je sais que le nombre des croyants n'est que petit, c'est pourquoi, dit-il, quand certains s'engageaient dans la persécution, je suis roi du peuple, non de leur conscience. » Il affirma aussi que la religion ne doit pas être plantée par le feu et l'épée, Cron, Liberté de religion, partie 2. De plus, un livre écrit en français par W. M. L'an 1576 contient cette sentence. Ces princes qui ont gouverné par la douceur et la clémence jointe à la justice, et qui ont exercé modération et mansuétude envers leurs sujets, ont toujours prospéré et régné longtemps, mais au contraire, ces princes qui ont été cruels, injustes, prévenus et oppresseurs de leurs sujets sont bientôt tombés, eux et leurs états, dans le péril ou la ruine totale. Veritus a dit : Puisque le Christ est un agneau, que vous professez être votre chef et capitaine, il vous faut donc être des brebis et user des mêmes armes que lui, car il est un berger de brebis et non un berger de loups et de bêtes sauvages. Si vous perdez la nature de brebis, dit-il, et que vous soyez changés en loups et en bêtes sauvages, et que vous usiez d'armes charnelles, alors vous vous exclurez vous-même de son appel et abandonnerez son étendard, et alors il ne sera pas votre capitaine. Nous trouvons aussi, dans un discours du roi Jacques au Parlement en l'an 1609, cette affirmation, c'est une règle pure en théologie que Dieu n'a jamais planté son Église par la violence ou le sang. Et il ajouta, c'était d'ordinaire la condition des chrétiens d'être persécutés, mais non de persécuter. Le roi Charles, dans son livre, page 61, a dit dans sa prière à Dieu, tu vois combien de cruauté parmi les chrétiens s'exerce sous couleur de religion, comme si nous ne pouvions être chrétiens à moins de nous crucifier les uns les autres. Page 28. Fais-leur enfin considérer sérieusement que rien de violent ni de nuisible ne peut être religieux. Page 70. Il n'est pas si approprié de tailler la réforme religieuse à coups d'épée que de la polir par des disputes honnêtes et équitables, parmi ceux qui sont le plus concernés par les différences, que non la force mais la raison doit convaincre. Page 66. Prenez garde que les circonstances extérieures et les formalités en religion ne dévorent pas tout. Pag. 91-92, en matière de véritable délicatesse de conscience, j'ai si souvent déclaré combien peu je désire que mes lois et mon sceptre empiètent sur la souveraineté de Dieu, qui est le seul roi de la conscience. Pag. 123, je ne désire pas non plus qu'aucun homme me soit soumis au-delà de ce que nous pouvons tous être soumis à Dieu. Page 200, au souverain de nos âmes, le seul commandant de nos consciences, page 346. Dans ses méditations sur la mort, c'est en vérité un triste état que d'avoir ses ennemis pour accusateurs, partis et juges. Le prince d'Orange a attesté, en l'an 1579, il est impossible que le pays soit maintenu en paix s'il n'y a pas une libre tolérance dans l'exercice de la religion. Où avez-vous lu, de votre temps, dit Méno, dans les écrits des apôtres, que le Christ ou les apôtres aient jamais crié vers les magistrats pour obtenir leur pouvoir contre ceux qui ne voulaient pas entendre leur doctrine ni obéir à leurs paroles. Je sais certainement, dit-il, que là où un magistrat banni par l'épée, il n'y a ni la vraie connaissance, ni la parole spirituelle, ni l'Église du Christ, c'est invocar brachium secular, invoquer le bras séculier. Ce n'est pas chrétien, mais tyrannique, dit D. Philipson, de bannir et de persécuter des gens au sujet de la foi et de la religion, et ceux qui le font sont assurément de la génération pharisienne qui a résisté au Saint-Esprit. Erasme a dit, bien qu'ils prennent notre argent et nos biens, ils ne peuvent pour cela nuire à notre salut, ils nous affligent beaucoup par les prisons, mais ils ne nous séparent pas pour autant de Dieu. In the Creed Read Fol, 63, Lucernu a dit, celui qui commande quelque chose par quoi il lie la conscience, celui-là est un antéchrist. In the Bemis Disp Fol, 71, Iran Reus a affirmé que toute contrainte de la conscience, ne fût-ce que l'interdiction de l'exercice que l'un ou l'autre estime nécessaire au salut, n'est en aucune manière juste ni convenable. Il a aussi affirmé que, par la diversité des religions, le royaume ne doit être amené à aucun trouble. L'empereur Constantin a dit, il suffisait qu'il préservât l'unité de la foi, afin d'être excusable devant le tribunal de Dieu, et qu'il laisserait chacun à sa propre compréhension, selon le compte qu'il rendra devant le tribunal du Christ. À cela nous pouvons inciter les gens, dit-il, Et non les contraindre, les supplier d'entrer dans l'unité des chrétiens, mais leur faire violence, nous ne le ferons en aucune manière. Sebaste, Frank, Cron Folle 127. Augustin a dit, certains troublaient la paix de l'Église, tandis qu'ils s'efforçaient d'arracher l'ivraie avant son temps, et par cette erreur d'aveuglement, ils se séparent eux-mêmes d'autant plus d'être unis au Christ. Retnaldu a attesté que celui qui, par l'emprisonnement et la persécution, cherche à répandre l'Évangile et se graisse les mains de sang, doit bien plutôt être regardé comme un chasseur sauvage que comme un prédicateur ou un défenseur de la religion chrétienne. « J'ai depuis longtemps déterminé, dit Henri Yves, roi de France, dans son discours au Parlement 1599, de réformer l'Église, ce que je ne puis faire sans paix, et il est impossible de réformer ou de convertir les gens par la violence. Je suis roi comme un berger, et je ne répandrai pas le sang de mes brebis, mais je les rassemblerai par la douceur et la bonté d'un roi, et non par le pouvoir de la tyrannie, et je donnerai à ceux qui sont de la religion réformée la pleine liberté de vivre et d'habiter libre, sans être interrogés, tourmentés, molestés ni contraints à quoi que ce soit contre leur conscience, car ils auront le libre exercice de leur religion, etc. » Vide et Cron, Van Doen de Goede Deal, p. 1514, Ennius a dit « La sagesse est chassée quand l'affaire se fait par la force. Et c'est pourquoi les meilleurs des hommes, et les princes les plus glorieux, ont toujours été prêts à accorder la tolérance. » Eusèbe, dans son second livre de la vie de Constantin, rapporte ces paroles de l'empereur « Que ceux qui errent reçoivent avec joie la même jouissance de paix et de tranquillité que les fidèles, ce rétablissement de communication et de société peut les ramener dans la bonne voie de la vérité, que nul n'importune personne, que chacun fasse selon ce qu'il a déterminé dans son esprit. » Et en vérité, il y a grande raison pour les princes d'accorder la tolérance aux personnes en désaccord, dont les opinions ne peuvent être changées par des moyens honnêtes, car si les personnes sont assurées, elles serviront Dieu selon leurs convictions, et si cela leur est publiquement interdit, elles se réuniront en privé, et alors tous ces inconvénients et torts, qui sont des arguments contre la permission de réunion de dicide, sont des arguments pour la permission publique de religions différentes, car en les restreignant et en les rendant. Le même conseil, dans les divisions de l'Allemagne au commencement de la première réforme, fut jugé raisonnable par l'empereur Ferdinand et par son excellent fils Maximilien, car ils avaient observé que la violence exaspérait, n'était pas bénie, était infructueux et déraisonnable, et c'est pourquoi ils rendirent des décrets de tolérance. Le duc de Savoie, se repentant de sa guerre entreprise pour la religion contre les Piémontais, leur promit la tolérance et il tint parole. Il est remarquable que, jusqu'au temps de l'empereur Justinien, Anno Domini 525, les catholiques et les novatiens avaient des églises indifféremment permises, même à Rome même. Et Paul prêchait le royaume de Dieu, enseignant les choses qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, avec toute assurance, et nul ne l'en empêchait. Et il fit cela pendant l'espace de 2 ans, dans sa propre maison louée à Rome, et recevait tous ceux qui venaient à lui. Présent au roi, voyant ses nobles témoignages concernant la liberté de conscience de roi, d'empereur et d'autres, et la liberté que Paul avait à Rome au jour de l'empereur païen, notre désir est que nous ayons la même liberté à Dantzig, de nous réunir dans nos propres maisons louées, ce qui ne peut nuire ni au roi ni à la ville de Dantzig, que nous nous réunissions pour attendre le Seigneur, le prier, et le servir et l'adorer en esprit et en vérité dans nos propres maisons louées, puisque notre principe nous conduit à ne faire de tort. C'est pourquoi, ô roi, considérez, et vous aussi, ville de Dantzig, ne trouveriez-vous pas dur que d'autres vous forcent à quitter votre religion pour une autre, contre vos consciences? Et s'il en est ainsi que vous trouveriez cela dur pour vous, alors faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas que les hommes vous fassent, car c'est là la loi royale qui doit être obéie. Et ainsi, par amour pour votre âme immortelle et pour votre bien éternel, ceci est écrit. George Fox Postscriptum. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et souvenez-vous, ô roi, des 2 apologies de Justin Martyr aux empereurs romains, en défense des chrétiens persécutés, et de 7 notable apologies qui fut écrite par Tertullien sur le même sujet, lesquelles ne sont pas seulement pour la religion chrétienne, mais contre toute persécution pour cause de religion. Cher Peter Hendrik John Claw, J. Rawlins et tous les autres amis à Amsterdam, en Frise et à Rotterdam, à qui va mon amour dans la semence de vie qui est au-dessus de tout. J'ai reçu votre lettre avec une lettre de Dantzig, j'ai écrit quelque chose qui vous est destiné à adresser au roi de Pologne, que vous pouvez traduire en haut allemand et envoyer aux amis là-bas pour le remettre au roi, ou vous pouvez l'imprimer, après qu'il aura été remis en manuscrit, ce qui peut être utile à d'autres princes. Ainsi en hâte, avec mon amour, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, au-dessus de tout, vous donne la domination dans sa puissance éternelle, et qu'en elle il vous préserve au-dessus de tout, et vous garde pour sa gloire, afin que vous répondiez à ce qui est de Dieu en tous les peuples. Amen. George Fox, Londres, le 13 du 9 mois, 1667, je continuai de rester à Londres et aux environs pendant quelques semaines, le Parlement siégeant de nouveau, et les amis s'employant à obtenir quelques réparations de nos souffrances, qui, en ce temps-là, étaient très grandes et lourdes pour beaucoup d'amis dans de nombreuses régions du pays. Les amis étaient très indûment poursuivis en vertu des statuts faits contre les récusants papistes, quoique nos persécuteurs ne pussent ignorer que les amis étaient absolument opposés à la papauté, ayant rendu témoignage contre elle par la parole et par l'écrit, et en ayant souffert. Mais bien que beaucoup de membres du Parlement, dans l'une ou l'autre chambre, fussent bienveillants envers les amis et disposés à faire quelque chose pour leur soulagement, ils en furent empêchés par de nombreuses affaires, de sorte que les souffrances des amis continuèrent. Mais ce qui ajouta beaucoup à la douleur et à l'exercice des amis, c'est que certains, qui faisaient profession de la même vérité que nous, s'étant éloignés de la simplicité de l'Évangile pour tomber dans une liberté charnelle, et s'efforçant d'en entraîner d'autres après eux, s'opposèrent à l'ordre et à la discipline que Dieu, par sa puissance, avait établie dans son Église, et ils firent grand bruit et grand vacarme contre les règlements, par quoi ils entraînèrent aisément après eux ceux qui étaient d'humeur relâchée et désiraient une voie plus large que le sang. De plus, certains des plus simples et des plus jeunes dans la vérité, ou faibles en jugement, risquaient d'être trahis par eux, ne connaissant pas les profondeurs de Satan dans ses arguments trompeurs. C'est pour leur cause que je fus poussé à écrire le papier suivant, afin de détromper les trompés et d'ouvrir l'intelligence des faibles en cette matière. Tous ceux qui nient les règlements sans prescription peuvent tout aussi bien nier toutes les Écritures, qui ont été produites par la puissance et l'Esprit de Dieu. Car ne prescrivent-elles pas comment les hommes doivent marcher envers Dieu et envers les hommes, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau ? Oui, dès la toute première promesse du Christ dans la Genèse, ce que les gens doivent croire et en quoi ils doivent se confier, et tout au long jusqu'à ce que l'on en vienne aux prophètes. Le Seigneur n'a-t-il pas prescrit à son peuple par les pères, puis par ses prophètes ? N'a-t-il pas prescrit au peuple comment il devait marcher, bien qu'il se soit retourné contre les prophètes dans l'ancienne alliance pour leur avoir déclaré ou prescrit la voie par laquelle il pouvait marcher afin de plaire à Dieu et de demeurer en sa faveur? Au jour du Christ, n'a-t-il pas prescrit et enseigné comment les gens devaient marcher et croire? Et après lui, les apôtres n'ont-ils pas prescrit aux gens comment ils pouvaient en venir à croire et recevoir l'Évangile et le royaume de Dieu, les dirigeant vers ce qui leur donnerait la connaissance de Dieu? Et comment ils devaient marcher dans la nouvelle alliance au jour de l'Évangile, et par quel chemin ils devaient parvenir à la Cité Sainte. Et les apôtres n'ont-ils pas envoyé leurs décrets par des hommes fidèles choisis, qui avaient risqué leur vie pour l'amour du Christ aux églises, par lesquelles elles furent affermies? Ainsi, vous qui niez les prescriptions données par la puissance et l'Esprit de Dieu, vous vous opposez par là à l'Esprit qui les a produites en tous les saints hommes de Dieu. N'y en a-t-il pas eu dès l'origine, au jour de Moïse, au jour des prophètes, au jour du Christ et au jour de ses apôtres, qui résistèrent à ce qu'ils émettaient de l'Esprit de Dieu, et n'y a-t-il pas eu une opposition semblable depuis les jours des apôtres? Combien se sont levés, depuis que la vérité est apparue, pour s'opposer à l'ordre qui se tient dans la puissance et l'Esprit de Dieu, qui ne sont en rien d'autre que dans le même Esprit qui s'est opposé à l'Esprit de Dieu depuis le commencement? Voyez quel nom ou titre l'Esprit de Dieu a donné à cet esprit d'opposition dans l'Ancienne Alliance, et aussi dans la Nouvelle, c'est le même aujourd'hui, car après que le Seigneur eut fait paraître l'Ancienne Alliance, il y en eut parmi eux qui s'y opposèrent, qui étaient pires que des ennemis publics. Et de même au jour de la Nouvelle Alliance, au temps de l'Évangile, vous pouvez voir quelle sorte de gens s'opposa au Christ et aux apôtres, après être parvenus à quelques vues de la vérité, et comment ils se retournèrent contre le Christ et ses apôtres. Voyez quelle liberté ils plaidaient et dans quoi ils se précipitaient au jour des apôtres, eux qui ne pouvaient supporter la croix, le joug de Jésus. Nous voyons le même esprit rude et hautain qui crie maintenant pour la liberté, que la puissance et l'esprit du Christ ne peuvent donner et crie imposition, tout en imposant, crie liberté de conscience, et pourtant s'oppose à la liberté de conscience, crie contre les prescriptions, et pourtant prescrit tant en parole que par écrit. Ainsi par la puissance et l'Esprit éternel de Dieu, cet Esprit est sondé, son surgissement, son commencement et sa fin, et il est jugé. Cet Esprit crie, nous ne devons pas juger la conscience, nous ne devons pas juger les matières de foi, nous ne devons pas juger les esprits ou les religions. Oui, ceux qui sont dans l'Esprit pur et la puissance de Dieu, comme l'étaient les apôtres, jugent la conscience si elle est cautérisée ou tendre. Ils jugent la foi si elle est morte ou vivante, ils jugent la religion, si elle est vaine ou pure et sans souillure, ils jugent les esprits et les éprouvent, s'ils sont de Dieu ou non, ils jugent l'espérance, si elle est celle des hypocrites ou la vraie espérance qui purifie. Comme Dieu pur, ils jugent la croyance, si elle est ce qui est né de Dieu et vainque le monde, ou ce qui se jette dans l'esprit du monde, qui convoite. Ils jugent les cœurs, les oreilles et les lèvres, lesquels sont circoncis et lesquels ne le sont pas. Ils jugent les ministres, apôtres et messagers, s'ils sont de Satan ou du Christ. Ils jugent les différences en choses extérieures, dans l'Église ou ailleurs, oui. le plus petit membre de l'Église a pouvoir de juger de telles choses, ayant l'unique vraie mesure et le vrai poids pour peser les choses et avec lesquelles mesurer les choses sans acception de personne. Ce jugement est donné, et toutes ces choses sont faites par la même puissance et le même esprit que ceux dans lesquels étaient les apôtres. Ceux-là aussi peuvent juger de l'élection et de la réprobation, et qui gardent sa demeure et qui ne la gardent pas, qui sont juifs au cœur circoncis et qui sont de la synagogue de Satan les fausses sectes chrétiennes, qui sont dans la doctrine du Christ et qui sont dans les doctrines des démons, qui prescrit et déclare les choses par la puissance et l'Esprit de Dieu, afin de préserver tous dans la puissance et l'Esprit de Dieu, et qui prescrit et déclare les choses par un esprit relâché, afin de délier tous de dessous le joug du Christ, la puissance. Ceux-là également peuvent juger et discerner qui conduit les gens dans la possession de l'évangile de lumière et de vie, au-dessus de la mort et des ténèbres, et dans la vérité où le diable ne peut entrer, et qui les conduit dans la possession de la mort et des ténèbres, hors de la glorieuse liberté de l'Évangile et de Jésus-Christ, de sa foi, de sa vérité, de son esprit, de sa lumière et de sa grâce. Car il n'y a pas de vraie liberté sinon en cela, et cette liberté répond à la grâce, à la vérité, à la lumière, à l'esprit, à la foi, à l'Évangile du Christ en chaque homme et femme, et elle est le joug contraire en chaque homme et femme. Cela le fait enrager, enfler et se gonfler, car cela est sans repos, indocile, impatient et prêt à maudire son Dieu, et ce qui règne sur lui parce qu'il n'a pas sa volonté. Il agit avec toute subtilité et esquive par son esprit inquiet pour entrer et souiller les esprits des simples et ravir les esprits vierges. Mais à mesure qu'ils reçoivent la sagesse céleste, par laquelle toutes choses ont été faites, cette sagesse étant au-dessus de cet esprit, par cette sagesse ils seront préservés au-dessus de cet esprit. Et le Christ a donné le jugement à ses saints dans son Église, bien qu'il soit juge de tous, et les saints dans la puissance et l'Esprit de Dieu, avaient et ont pouvoir de juger des paroles et des manières, des vies et des conduites, des croissances et des états d'un enfant un père dans la vérité, et à qui ils sont une odeur de mort, et à qui ils sont une odeur de vie, et qui sert le Seigneur Jésus-Christ et le prêche, et qui se prêche soi-même et se sert soi-même, et qui parle de la lumière, de la foi, de l'évangile, de l'espérance, de la grâce. Ainsi les saints, dans la puissance et l'Esprit du Christ, peuvent discerner et distinguer qui sert Dieu et le Christ, et qui ne le sert pas, et peuvent mettre une distinction entre le profane et le saint. Mais ceux qui ont perdu leur collyre, et dont la vue s'est obscurcie, perdent ce jugement, ce discernement et cette distinction dans l'Église du Christ, et tels en viennent à être vomis de la bouche du Christ, à moins qu'ils ne se repentent, et sinon, ils en viennent à corrompre la terre et à l'accabler, au point qu'elle les vomit hors d'elle. C'est pourquoi tous sont exhortés à demeurer dans la puissance et l'Esprit de Christ Jésus, dans la parole de vie et la sagesse de Dieu, qui est au-dessus de ce qui est en bas, afin qu'ils puissent conserver leur intelligence céleste et leur discernement céleste, et ainsi établir le jugement spirituel céleste au-dessus de ce qui est à juger, ce qui déshonore Dieu, ce qui mène au relâchement et à une fausse liberté, hors de l'unité qui se tient dans l'Esprit céleste, qui rend conforme à l'image du Fils de Dieu, et à son évangile la puissante. Et ceux qui crient tant contre le fait de juger, et ont peur du jugement, qu'ils soient apôtres, professants ou profanes, sont ceux qui jugent le plus avec les esprits et jugements faux et censeurs, et pourtant ils ne peuvent supporter le vrai jugement de l'Esprit de Dieu, ni se tenir dans son jugement. Cela a été manifeste dès le commencement, eux ayant les fausses mesures et les faux poids, car nul n'a la vraie mesure et le vrai poids, sinon ceux qui demeurent dans la lumière, la puissance et l'Esprit du Christ. Il y a un esprit relâché qui crie pour la liberté et contre les prescriptions, et pourtant prescrit des voies, tant par parole que par écrit. Le même esprit crie contre le jugement et ne voudrait pas être jugé, et pourtant juge avec un mauvais esprit. Ceci est publié en répréhension de cet esprit. George Fox, Londres, le 9 du 4 mois, 1678. Quand j'eus achevé ici, en ce temps-là, le service que j'avais pour le Seigneur, je me dirigeai vers Hertford, visitant les amis et ayant plusieurs réunions en chemin. À Hertford, je demeurai plusieurs jours, avec beaucoup de services pour le Seigneur là-bas, tant parmi les amis dans leurs réunions que dans des entretiens avec ceux qui s'opposaient à l'ordre de la vérité, ayant admis de mauvais soupçons et des jalousies au sujet des amis. Je répondis aussi à quelques livres écrits contre la vérité et les amis. Pendant que j'y étais, il me vint à l'esprit d'écrire quelques lignes et de les envoyer parmi les amis, comme suit, chers amis, que la sainte semence vienne sur la mort et sur la semence impie en vous tous, afin que dans la sainte semence du royaume, vous puissiez tous sentir la sainte paix éternelle avec Dieu par le Christ Jésus votre Sauveur et vous asseoir en lui, votre vie et votre glorieux repos, le saint rocher et fondement qui demeure sur au-dessus de tout d'éternité en éternité, en qui se trouve toute la plénitude. Amen, lui qui est votre joie éternelle, votre vie et votre bonheur, par qui vous avez la paix avec Dieu. Cette sainte semence écrase la tête du serpent, et survivra à toute sa fureur, sa malice et son envie, elle était avant lui et avant qu'elle fût, et elle demeure qu'en lui et elles sont parties dans le feu qui brûle avec le soufre. La semence, le Christ, régnera, et ainsi vous vivrez à mesure que vous vivez et marchez en lui, vous asseyant en Christ, et vous édifiant les uns les autres dans l'amour de Dieu. George Fox, Hertford, le 10 du 5 mois 1678 le lendemain, un nouvel exercice vint sur moi, concernant ces esprits indisciplinés et désordonnés qui étaient sortis de chez nous et s'efforçaient d'entraîner d'autres après eux dans une fausse liberté. Sentant le tort et le dommage que ces esprits trompeurs pourraient faire s'ils étaient suivis, je fus poussé à écrire quelques lignes pour en avertir les amis, comme suit. Tous les amis demeuraient dans la vie tendre de l'agneau, au-dessus de cet esprit indiscipliné, enflé, gonflé et bouffi, dont l'œuvre est la crêle, la dispute et la division entraînant vers le relâchement et une fausse liberté, sous prétexte de conscience, et mettant en danger la ruine des jeunes en Christ. Ceux qui les encouragent seront coupables de leur destruction, et d'établir un état d'esprit fixe à la place de la conscience dans leur rage et leur passion, ce qui éteindra l'esprit universel en eux-mêmes et en tout homme et toute femme. Et ainsi cet esprit n'aura pas de vraie liberté en eux-mêmes, ni chez les autres, de la sorte ils ferment le royaume des cieux en eux-mêmes, et aussi chez les autres. Ainsi un esprit relâché s'élève sous un prétexte de liberté de conscience, ou d'une volonté obstinée, il fait profession des paroles de vérité dans une forme sans puissance, ce prétexte déguisera et couvrira tout détachement et toute méchanceté, ce qui est pour le jugement éternel, car cela déshonore Dieu. C'est pourquoi tenez-vous à l'esprit tendre de Dieu, en toute humilité, afin qu'en lui vous sachiez que vous êtes tous membres les uns des autres, et que chacun a une fonction dans l'Église du Christ. Tous ces membres vivants se connaissent les uns les autres dans l'esprit, et non dans la chair. Ainsi ici, il n'y a pas d'homme régnant sur la femme, comme Adam sur Ève dans la chute, mais le Christ, l'homme spirituel, parmi et au-dessus de ses membres spirituels, qui sont édifiés dans l'amour céleste répandu dans leur cœur par Dieu, là où toute crêle cesse. George Fox Hertford, le 11 du 5 mois, 1678, je partis de Hertford pour une réunion à Rabelais, puis de là chez Edward Crouch à Stevenage. Le lendemain, j'allai à Baldock où j'eus une réunion ce soir-là, et ensuite des réunions à Itchin et à Ashwell. Puis, traversant une partie du Bedfordshire, où j'eus une ou deux réunions, j'allai à Huntingdon, dans lequel comté je demeurai plusieurs jours, ayant de nombreuses réunions et beaucoup de services parmi les amis, travaillant à convaincre les opposants et à confirmer et fortifier les amis dans la voie et l'œuvre du Seigneur. À Yves, dans le Huntingdonshire, George Whitehead se joignit à moi, et nous voyageâmes dans l'œuvre du Seigneur 5 ou 6 jours dans ce comté et dans une partie du Northamptonshire. Me laissant à Great Bowden, dans le Leicestershire, il alla vers le Westmoreland. Je demeurai dans le Leicestershire, visitant les amis à Saddington, Wixton, Knighton, Leicester, Sileby, Swannington et divers autres lieux. Dans ces lieux, j'eus des réunions très précieuses et un bon service parmi les amis et d'autres, car il y avait une grande ouverture, et le Seigneur me donna à leur délivrer beaucoup de vérités graves et excellentes. À Leicester, j'allai à la prison visiter les amis emprisonnés pour le témoignage de Jésus, avec lesquels je passai quelque temps, les encourageant dans le Seigneur à persévérer fermement et fidèlement dans leur témoignage, et à ne pas se lasser de souffrir pour lui. Et lorsque j'eus pris congé des amis, je parlai au geôlier, le priant d'être aimable envers eux et de leur accorder toute la liberté qu'ils pourraient, y compris de visiter leur famille à l'occasion. J'eus une ou deux réunions dans le Warwickshire, puis j'entrai dans le Staffordshire, où j'eus plusieurs réunions douces et éclairantes, tant pour rassembler dans la vérité que pour l'y établir. Pendant que j'étais dans le Staffordshire, je fus poussé à publier l'écrit suivant, « Chers amis des réunions trimestrielles et mensuelles partout, mon désir que vous vous efforciez tous d'être d'une même pensée dans la puissance et la vérité du Seigneur, qui est pacifique où la crêle et l'inimitié ne peuvent entrer, et aussi dans la sagesse de Dieu, qui est pure, pacifique et facile à fléchir, qui est au-dessus de ce qui est en bas, c'est-à-dire terrestre, diabolique et sensuel. Et que, dans cette sagesse céleste, pacifique et facile à fléchir, vous soyez tous ordonnés, et fassiez tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu. Et chers amis, s'il arrivait qu'à quelque moment surgisse quoi que ce soit qui mène à la crêle, à la dispute ou à la contention dans vos réunions mensuelles ou trimestrielles, que cela soit renvoyé à une demi-douzaine, ou à un nombre semblable, pour en débattre et en terminer hors de vos réunions, comme il en était au commencement, afin que toutes vos réunions mensuelles et trimestrielles soient maintenues pacifiques. Et ensuite ils pourront informer la réunion de ce qu'ils ont fait, afin que les faibles et les jeunes parmi vous ne soient pas blessés en écoutant la crêle ou la contention dans vos réunions, où il ne devrait y avoir ni crêle ni contention, mais que tous avancent et déterminent les choses d'une seule pensée, dans la puissance de Dieu, l'ordre évangélique, dans cet évangile de paix, vous préserverez la paix de toutes vos réunions. Si un homme ou une femme a quelque chose contre quelqu'un, qu'ils se parlent l'un à l'autre et que cela se termine entre eux, s'ils ne peuvent ainsi y mettre fin, qu'ils prennent 2 ou 3 personnes pour y mettre fin. Au cas où ceux-ci ne pourraient le régler, que cela soit porté devant l'Église, et qu'une demi-douzaine, ou un nombre approprié, tiré de votre réunion mensuelle ou trimestrielle, l'entende et y mette finalement fin, sans exception de personne. que tout préjugé soit mis de côté et enseveli, de même toute brusquerie des uns envers les autres, et que l'amour, qui ne s'enfle pas, n'envie pas, ne cherche pas son propre gain, mais supporte toute chose, ait la domination dans toutes vos réunions, car cela édifie le corps dont Christ est la tête, et cela dominera sur tout terrain qui résonne et sur toute cymbale retentissante. Cet amour souffre longtemps et est plein de bonté. Il maintiendra bas ceux qui voudraient se vanter de soi-même, s'enfler, se conduire avec indécence ou s'irriter facilement. Il a autorité sur tous ces fruits qui ne sont pas de l'esprit, dont le fruit est l'amour. Et que, par ce Saint-Esprit, vous soyez tous baptisés en un seul corps, et amenés à boire dans un seul esprit, dans lequel esprit vous aurez l'unité, où est le lien de la paix du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Ceux qui demeurent dans l'amour demeurent en Dieu, car Dieu est amour, que chacun donc garde sa demeure. Mon amour à vous en Christ Jésus, la semence éternelle, qui est au-dessus de tout, George Fox Staffordshire, le 20 du 6 mois, 1678. Après le Staffordshire, j'allais rendre visite à John Gratton à Moneyash, dans le Derbyshire, chez qui je restais une nuit, et le lendemain j'allais chez William Shaw de la Colline, dans le Yorkshire, où je fixais une réunion pour le premier jour suivant. Beaucoup d'amis du Derbyshire et de plusieurs réunions dans le Yorkshire vinrent, et ce fut une réunion précieuse et réconfortante, où fut exposé l'état bienheureux dans lequel l'homme était avant sa chute, les moyens par lesquels il chuta, la condition misérable dans laquelle il tomba, et la juste voie pour en sortir et revenir à un état heureux par Christ, la semence promise. Je passai environ 2 semaines dans le Yorkshire, et j'eus de nombreuses réunions célestes dans ce comté. Puis, visitant la demeure de Robert Wedela Kelley, dans le Lancashire, je passai à Arnside, dans le Westmoreland, où j'eus une réunion précieuse et vivante dans la puissance bénie du Seigneur, à la grande satisfaction et au grand réconfort des amis qui y vinrent de diverses régions. Le lendemain, j'allai à Swarthmore, et comme c'était jour de réunion là-bas, j'eus une douce occasion avec les amis, nos cœurs s'ouvrant dans l'amour de Dieu, et sa vie bénie coulant parmi nous. Je n'avais pas été longtemps à Swarthmore qu'un souci vint sur moi de visiter les églises du Christ par une épître, comme suit, « Chers amis, je vous porte mon amour dans la semence céleste, en laquelle toutes les nations sont bénies. Oh, gardez tout en cette semence, en laquelle vous êtes bénis, et en laquelle Abraham et tous les fidèles furent bénis, sans les œuvres de la loi, car la promesse était et est à la semence et avec la semence, et non avec la loi de la première alliance. En cette semence, toutes les nations et vous êtes bénis, elle qui écrase la tête de la semence qui apporta la malédiction et sépara l'homme de Dieu. C'est la semence qui vous réconcilie avec Dieu, et c'est la semence en laquelle vous êtes bénis tant matériellement que spirituellement, par laquelle vous avez un héritage parmi les sanctifiés, qui ne peuvent être souillés, et dans la possession de laquelle aucune chose souillée ne peut entrer, car toutes les souillures sont hors de cette semence. C'est ce qui fait lever une pâte nouvelle, et écrase la tête de la semence méchante qui fait lever l'ancienne pâte, sur laquelle le soleil de justice descend et se couche, mais il ne descend et ne se couche jamais pour ceux qui marchent dans la semence en laquelle toutes les nations sont bénies, par cette semence ils sont amenés jusqu'à Dieu, et est là-bas cette semence qui les séparait de Dieu, de sorte qu'il n'y ait plus rien entre eux et Dieu. Maintenant, tous mes chers amis, mes désirs sont que vous soyez tous vaillants en cette semence céleste, pour Dieu et sa vérité sur la terre, et que vous la répandiez au loin, répondant à ce qu'il y a de Dieu en tout. Afin qu'avec elle les esprits des gens soient tournés vers le Seigneur, qu'ils puissent être connus, servis et adorés, et que vous soyez tous comme le sel de la terre, pour rendre savoureux ce qui est sans assaisonnement. Et, au nom de Jésus, gardez vos réunions, vous qui êtes rassemblés en lui, en dont le nom vous avez le salut, lui étant au milieu de vous, dont le nom est au-dessus de tout nom sous le ciel tout entier. Ainsi vous avez un prophète, un évêque, un berger, un prêtre et un conseiller. Au-dessus de tous les conseillers, prêtres, évêques, prophètes et bergers sous le ciel tout entier, pour exercer ses fonctions parmi vous, dans vos réunions, rassemblées en son nom. Car la réunion et le rassemblement du Christ sont au-dessus de toutes les réunions et de tous les rassemblements sous le ciel tout entier, et son corps, son Église, et lui la tête d'Aïssel, sont au-dessus de tous les corps, Église et tête sous le ciel tout entier. Et la foi dont Christ est l'auteur, et l'adoration qu'il a établie, et sa communion dans l'Évangile, sont au-dessus de toutes les fois historiques, et des fois que les hommes ont faites, avec leurs adorations et leurs communions sous le ciel tout entier. Maintenant, chers amis, gardez vos réunions d'hommes et de femmes dans la puissance de Dieu, l'Évangile, l'autorité d'Aïssel, qui fait luire en vous la vie et l'immortalité. Et cet Évangile, la puissance de Dieu, vous préservera dans la vie et dans l'immortalité qu'il a fait luire en vous, afin que vous voyez au-dessus de celui qui a obscurci et tenu éloigné de la connaissance des choses de Dieu. Car c'est lui et ses instruments qui vont obscurci quant à la vie et à l'immortalité, qui voudra renverser vos réunions d'hommes et de femmes. Chaque héritier dans la puissance de Dieu, L'Évangile a droit à cette autorité, qui n'est pas de l'homme ni par l'homme. Cet Évangile, la puissance de Dieu est éternelle, un ordre éternel, une communion éternelle. Et dans l'Évangile se trouvent une joie, un réconfort et une paix éternelle qui survivront à toutes ces joies, ces réconforts et ces paix qui auront une fin, ainsi qu'à l'Esprit qui s'oppose à l'ordre de Dieu, à sa glorieuse communion, et à la paix et au réconfort qui s'y trouvent. Et, mes chers amis, mon désir est que vous demeuriez dans l'unité de l'Esprit, qui vous baptise tous en un seul corps, dont Christ est la tête céleste et spirituelle. Afin que vous puissiez voir et rendre témoignage à notre tête céleste et spirituelle, et ainsi tous boire dans l'unique Esprit, ce que tous les peuples de la terre ne sont guère susceptibles de faire, tant qu'ils l'attristent, l'éteignent et se rebellent contre lui, ni d'être baptisés en un seul corps et de garder l'unité de l'Esprit, qui est le lien de la paix, oui la paix du roi des rois et du seigneur des seigneurs, ce qui est le devoir de tous les vrais chrétiens de garder, qui sont intérieurement unis au Christ. George Fox, mon amour à vous tous dans la semence éternelle, Swarthmore, le 26 du 7 mois, 1678. Vers ce temps, plusieurs amis étaient en prison pour avoir rendu témoignage à la vérité. Je fus poussé à leur écrire quelques lignes pour les consoler, les fortifier et les encourager, ayant un vrai sentiment de leur souffrance sur mon esprit et une sympathie intérieure avec eux. Ce que j'écrivis était de la manière suivante. « Mes chers amis, vous qui souffrez pour l'amour du Seigneur Jésus et pour le témoignage de sa vérité, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant par sa puissance vous soutienne et vous appuie dans toutes vos épreuves et vos souffrances, et vous donne patience et contentement en sa volonté, afin que vous demeuriez vaillants pour le Christ et sa vérité sur la terre, au-dessus de l'esprit persécuteur et destructeur, qui fait souffrir en Christ lui qui écrase la tête, en qui vous avez à la fois élection et salut. Pour l'amour de ses élus, le Seigneur a beaucoup fait depuis la fondation du monde, comme on peut le voir dans toutes les Écritures de vérité. Ce qui les touche touche la prunelle de l'œil de Dieu, ils lui sont si chers, c'est pourquoi il est bon que ses enfants souffrants se confient au Seigneur et l'attendent, car ils seront comme le mont Sion, qui ne peut être ébranlé loin du Christ, leur rocher et salut, le fondement de tous les élus de Dieu, des prophètes et des apôtres, et du peuple de Dieu maintenant et jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur et à l'agneau au-dessus de tout. Souvenez-vous de mon cher amour pour tous les amis, et ne trouvez pas le temps long, car tout temps est dans la main du Père sa puissance. Gardez donc la parole de la patience et exercez ce don. Que le Seigneur vous fortifie dans vos souffrances dans son Saint-Esprit de foi. Amen. George Fox Swarthmore, le 5 du 12 mois, 1678. Back next.